Hier, la journée a été sensiblement similaire au précédent samedi, en tout cas les quelques derniers samedis, malgré quelques casses quand même, notamment à Toulouse et à Paris. Et puis donc, ce dont je vous parlais à l'instant, Jérôme Rodriguez blessé. On est place de la Bastille, il est aux alentours de 16h30. Il est en train de filmer avec son portable sur un Facebook Live que vous voyez sur ces images. Et tout d'un coup, il se prend un projectile dans la tête, a priori une grenade de désencerclement. Pour l'heure, tout cela n'est pas encore tout à fait clair.
Attendons de savoir la réalité des faits et les circonstances.
Non, mais c'est tout ce qui vous rendez compte de ce que vous dites?
Oui, tout à fait.
Ça fait quand même déjà des semaines qu'on compte le nombre de manifestants qui se retrouvent effectivement avec, avec des mutilations, avec un œil crevé. C'est pas la première fois. Vous nous dites qu'il faut encore attendre. Combien de manifestants blessés qui ne retrouveront jamais l'usage de leurs mains, de leurs yeux, etc. C'est pas la première fois. Et là, c'est accablant. Moi, j'ai suivi un peu l'actualité ces dernières semaines. On nous a expliqué que ces balles de défense, elles devaient être de désencerclement, elles devaient être tirées en dessous du torse. On nous a expliqué qu'il y avait un entraînement pour cela, qu'on allait mettre des caméras, que les choses allaient finalement changer, etc. Ben, la réalité, c'est que ça continue. C'est qu'il y a vraiment, voilà, effectivement,
c'est pas Nathalie, on a des forces qui tirent dans le tas. Juste pour être précis, on ne sait pas s'il s'agit d'une balle de défense ou s'il s'agit d'une grenade de désencerclement qui a explosé.
Et quelle est la différence?
Non, je vous dis simplement, pour être précis, ce que vous dites, il faut avoir une caméra, il ne faut pas viser la tête, il faut bien sûr, je dis juste pour être précis où on en est dans l'état actuel des choses, c'est que, voilà, pour l'instant, on n'a aucune certitude là-dessus.
Et en fait, il y a quand même une stratégie de la part, effectivement, du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, de tirer dans le tas de sorte que ces manifestations cessent. Voilà, tout simplement.
Je pense,
voilà,
madame,
il y a d'un côté la calinothérapie avec
le
grand débat.
Et l'autre côté,
on tire dans le tas.
Vous venez de dire tirer dans le tas.
Plus de 150 blessés, vous vous rendez compte? Alors que ce sont des manifestants qui manifestent parfois pour la première fois.
La première différence entre vous et moi, c'est que vous comptez les manifestants blessés à l'occasion de tels mouvements, nous aussi. Il y a une chose que vous oubliez systématiquement de compter, c'est le nombre de gendarmes et de policiers blessés. Et ils sont très nombreux.
Bah, moi, j'ai pas encore vu de gendarmes avec un œil crevé. J'ai pas encore vu de gendarmes avec une main mutilée. J'ai pas encore vu ces blessures-là. Ce n'est pas vrai.
Vous avez peut-être
vu
des gendarmes
à qui on a jeté. Mais ce n'est pas vrai. Et par ailleurs, il y a quand même les forces de l'ordre. Ce sont les professionnels de l'usage de la force, justement. Hein, comme on le dit, ils ont le monopole de l'usage de la force. Eh bien, ils doivent effectivement veiller à ce que les choses, elles se passent normalement. Et ce n'est pas le cas.
Ce qui est frappant sur ce grand débat, c'est que les gens disent effectivement, je vais m'en saisir, mais je n'ai aucune confiance dans ce qui va en ressortir. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, ce qu'on entend. Les gens disent, d'ailleurs, je voulais vous poser la question à vous. Est-ce que vous, par exemple, Nathalie Arthaud, vous iriez dans un grand débat comme ça? Est-ce que vous iriez débattre avec vos voisins, votre maire, vos concitoyens, etc., etc.?
Mais moi, je débat en permanence. Mais effectivement, là, ce grand débat national, il a un objectif. D'abord, on voit qu'il se résume aujourd'hui à un one-man show présidentiel en continu.
Plus de 310 000 contributions sur le site, c'était les chiffres hier matin. C'est quand même, je veux dire, les Français s'en saisissent.
On voit aussi que le président de la République sature les médias. On ne voit que lui, on n'entend que lui. Bon, maintenant, débattre, je pense qu'effectivement, beaucoup ont envie de dire ce qu'ils pensent. Et si ce mouvement, vous parlez aujourd'hui de rassemblement minoritaire, certes, mais en réalité, il reflète une colère, une révolte généralisée. D'ailleurs, il est soutenu massivement. Les revendications qui sont mises en avant sont partagées massivement.
Et c'est la raison pour laquelle, parfois, un peu secoué quand même. On l'a vu notamment par certains maires, mais aussi par certains Français contre lesquels il a.
Oui, mais enfin bon,
même si ça reste très policé, il n'y a pas d'insulte qui fuse. Il est quand même.
Sauf que ce que j'observe, c'est que précisément les revendications qui étaient prioritaire chez les Gilets jaunes, c'est-à-dire ces revendications sociales sur l'augmentation du pouvoir d'achat, sur l'augmentation du SMIC, sur la nécessité de plus de justice sociale, eh bien, dans le cadre de ce grand débat, elles sont complètement noyées. Parce qu'on peut discuter des heures et des heures sur les 80 km/h, sur les changements institutionnels à introduire, oui, bien sûr, mais dès qu'il s'agit de toucher à 1 euro du grand capital, à 1 euro au profit, alors là, il n'y a plus de débat. Là, ce sont des lois économiques. Je parle de l'ISF, mais je parle de l'augmentation des salaires aussi. Là, immédiatement, on est face à un mur. On nous explique, mais ça,
Mais regardez la fiscalité pour les grands groupes, par exemple, c'est des choses qui sont
mais
produites dans le
monde. La réalité, c'est qu'on nous oppose toujours cette idée que, de toute façon, il y a des lois économiques qui s'imposent, ça se discute pas, il est impossible d'augmenter
donc,
les salaires.
Donc, pour répondre à ma question, vous n'irez pas discuter dans les grands débats
Évidemment non, et je pense que ce que font aujourd'hui les travailleurs qui continuent de se mobiliser,
c'est très juste. Vous êtes professeur d'économie, vous savez bien qu'il y a des lois économiques qui s'imposent.
Mais ces lois économiques, elles s'imposent parce qu'elles sont défendues par une minorité en tire profit. Mais ces lois économiques ne sont pas des lois naturelles, qui sont immuables. Ce n'est pas une loi gravitationnelle auquel il faudrait se soumettre parce qu'on ne peut pas la changer.
C'est pas une minorité.
Moi, je suis désolée.
Pardon, madame. Prenons l'exemple de la France, simplement. 1981, François Mitterrand décide d'aller à l'encontre de ce qui se passe dans toute l'Europe sur le plan économique. Ça dure même pas un an et demi. Si, ça dure un an et demi, pardon. Ça dure un an et demi parce qu'il se rend compte que ce n'est pas tenable. Voilà. Et il est obligé de faire machine arrière.
Ben évidemment, ce n'est pas tenable.
On peut prendre le Venezuela, qui est votre laboratoire. C'est beau, en ce moment, ce qu'on
écoutez,
voit.
Écoutez, vous êtes dans la caricature permanente. Parce que justement, vous n'avez pas envie de dire, est-ce qu'on peut augmenter les salaires? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires
aujourd'hui? Je veux bien parler d'ISF après,
mais... Je pose sur la table. On me dit, vous ne voulez pas débattre de la marteau. Mais si, précisément.
Vous laissez parler les autres.
Débattons de
l'essentiel. Allez-y, Frédéric Lefebvre.
Augmenter les salaires aujourd'hui. Et ça, précisément, vous ne voulez pas en parler.
Nathalie Arthaud, sur tous ces dossiers-là.
Non, mais ça, enfin, moi, je suis convaincue que le gouvernement ne répondra évidemment pas à la colère sociale.
Et vous ne le souhaitez surtout
il
pas.
Il ne répondra pas à la colère sociale pour une raison simple, toute simple, c'est que vous ne voulez pas prendre un centime sur les profits.
Et vous ne
voulez pas toucher
pas
à un cheveu de la grande bourgeoisie. Alors, je vous ai écouté parler, ça fait 2 minutes que je n'ai pas eu la parole, je vais m'expliquer. Et vous ne voulez pas toucher un cheveu à la bourgeoisie, on le voit. La preuve en est que vous ne voulez pas remettre en cause la suppression de l'ISF. Ça, c'est la preuve. Et quand vous parlez de manque de transparence, oui, bravo, moi je suis tout à fait d'accord, il y a un manque de transparence, mais pas que sur les dépenses publiques, pas sur les comptes de l'État. Il y a un manque de transparence sur l'argent qui dégouline dans notre société. Parce que votre gouvernement et Macron conduisent le grand débat en expliquant qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, qu'il faut trouver
la décision sur les GAFA,
des économies.
Par exemple,
mais ce n'est pas vrai.
La décision sur les GAFA, d'aller leur demander de payer des impôts.
Mais c'est microscopique. Ce qui est proposé, c'est simplement un truc pour regarder, on essaye de faire des choses. Ce gouvernement ne fait rien. Et ne veut rien faire. Voilà, moi, j'entends ce discours tout le temps, il n'y a pas d'argent dans les caisses, etc. Vous avez vu qu'il y avait 26 personnes qui possèdent autant que l'humanité dans le monde. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a des multimilliardaires qui se payent un billet pour faire le tour de la Lune en 2023. Et vous nous dites, ministre, qu'il n'y a pas d'argent pour résoudre les urgences hospitalières qui sont saturées, il n'y a pas d'argent pour la psychiatrie, il n'y a pas d'argent pour la justice, etc. Il y a de l'argent. Mais l'argent, il faut effectivement aller le chercher dans le grand, dans les caisses
du
grand patronat.
Et c'est l'objet sans doute de ces débats, des cahiers de doléances. D'ailleurs, il n'y a pas que le grand débat national, il y a des cahiers de doléances dans les mairies, de dire comment répartit-on. Peut-être que l'État vit au-dessus de ses moyens.
Justement, la question, c'est toujours comment répartit-on la misère? Comment est-ce qu'on répartit l'argent de l'État. Moi, je pose la question. Les travailleurs qui passent leur vie à bosser, qui laissent leur santé, qui laissent le meilleur d'eux dans les entreprises, n'ont-ils pas le droit de savoir ce que deviennent leur travail? Où passe le fruit de leur travail? Il y a des milliards qui s'accumulent à un pôle de la société dans des fortunes privées, dans un grand capital. Et ce grand capital, si on n'y touche pas, eh bien effectivement, on n'aura pas les moyens de débloquer la société. Vous vous rendez compte qu'à 40 milliardaires en France, parce qu'il paraît, chiffres d'Oxfam, que le nombre de milliardaires est passé depuis la crise de 2008 de 14 en France à 40. À 40, ils possèdent quasiment l'équivalent du budget de l'État, à 40 personnes. Cet argent, il est inutilisable. On ne peut pas, même pas le contrôler parce qu'il appartient à quelques personnes. Alors, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas le réquisitionner. Alors même que la société, elle en aurait un besoin urgent.
Il faut donc réfléchir à un autre modèle social. Voilà.
Il faut mettre en cause ce grand capital. Moi, je pense que les travailleurs, ils doivent viser effectivement le contrôle sur les comptes du grand patronat.
Cette rengaine-là, on l'entend depuis...
Allez-y, Frédéric Lefebvre.
Mais c'est pour ça qu'on s'en sort pas.
C'est le même disque rayé.
C'est pour ça que la société, elle est très riche.
Et donc, moi, je
en même temps, on s'en fout de la catastrophe.